Bonjour Madame Sabir, heureuse et enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous féliciter pour l'ouverture de votre clinique de neurofeedback. Avant d'aller explorer cette nouvelle science, je vous demanderai s'il vous plaît de vous présenter et nous donner une brève description sur vous et sur votre parcours professionnel.
Bonjour Madame Chorok, merci d'être venue aujourd'hui. Mon nom c'est Myriam Sabir, je suis doctorante à l'Université de Montréal en sciences biomédicales mais dans le domaine des neurosciences que j'ai effectué mes recherches. J'ai obtenu une maîtrise en sciences psychiatriques en 2015. Ensuite, j'ai enchaîné avec des études doctorales en faisant la recherche chez des patients avec des traumatismes crâniens au centre de recherche de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et après un certain nombre d'années, j'ai pensé à créer ma propre clinique en neurofeedback. C'est une technique non invasive qui aide le cerveau à s'autoréguler et aide les gens avec certaines difficultés comme le trouble de sommeil, l'anxiété et le stress.
Vous savez, Madame Sabir, pour notre discussion aujourd'hui, nous allons explorer ce domaine délicatement car le but, c'est d'informer les auditrices, les auditeurs. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelle est votre clientèle principale? Est-ce que ce sont des enfants, des ados, des adultes? Et les cas de figure, est-ce qu'ils se ressemblent pour les différentes tranches d'âge ou bien il y a des discordances?
D'accord. Concernant les tranches d'âge ou bien la population ciblée, la clinique cible principalement les enfants, ensuite les adolescents et les adultes. Et peu importe, mais concernant la difficulté ciblée, peu importe l'âge, on va faire un accompagnement personnalisé pour chaque personne à l'aide de l'administration des questionnaires spécialisés et de l'évaluation par électroencéphalogramme. À ce moment-ci, on peut aller accompagner chaque difficulté. Et principalement, je peux dire que, pourquoi je dis principalement les enfants, parce que c'est une population qui, déjà que je vois souvent, les parents se plaignent de beaucoup de difficultés, surtout au niveau d'apprentissage, et parfois même des enfants qui ne sont pas forcément diagnostiqués, je ne sais pas, TDAH ou un autre trouble neurodéveloppemental, mais on a des symptômes, parfois on entend dire « Ah, mon enfant, il ne fait pas ses devoirs, c'est avec difficulté, il n'arrive pas à se concentrer sur une tâche ». Déjà, moi, j'étais toujours fascinée par le concept de neuroplasticité pendant ces années d'études. Et qu'est-ce que c'est la neuroplasticité? C'est la capacité du cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions neuronales, une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire, le cerveau, il a toujours cette capacité de se réorganiser. Alors, les enfants ont encore plus cette capacité. Donc, le cerveau humain, déjà, il est plastique, il a cette capacité. Mais les enfants, ils ont cette capacité encore plus pendant les premières années de vie, parce que le cerveau se développe encore. Et lorsqu'on a des enfants qui ont déjà une bonne capacité à aller induire la neuroplasticité et qui vivent aussi des difficultés telles que la concentration, de l'apprentissage, parfois c'est des enfants dyslexiques, des troubles de lecture. Donc vu que on a les deux, on a l'enfant qui a la capacité, la neuroplasticité dans ces niveaux plus élevés chez les enfants, et aussi ils ont ces difficultés. Donc aller les cibler, c'est avoir des résultats plus visibles. Ça ne veut pas dire que chez des adultes, on ne va pas les voir. C'est toujours apprendre, c'est égal à répéter. Chez des adultes aussi, on voit des résultats, un bon outcome. C'est comme des résultats positifs. Mais aussi, ça prend des répétitions, ça prend plusieurs séances qui se répètent pour dire au cerveau d'apprendre à s'autoréguler de certaines façons.
Nous savons tous que pour la majorité des parents, ils reçoivent des alertes de l'école concernant majoritairement le TDAH, ok? Et vous, en tant qu'une spécialiste, qui est aussi issu de l'immigration. Quand vous recevez des parents, notre communauté, on va parler du Maghreb, ok? Puis eux, qu'ils pensent que ce terme TDAH est un terme exagéré, que l'école exagère pour la situation. J'imagine que vous avez déjà rencontré des parents dans cette situation-là. Vous, comment vous abordez cette problématique avec les parents? Comment vous allez pouvoir les convaincre pour dire on va pouvoir aller chercher si vraiment cette problématique existe ou non? Et puis, comment on peut traiter, comment je peux vous aider? Parce que je pense que vous, vous allez utiliser vos outils, ce que vous avez étudié, mais vous avez quand même des parents qui sont très inquiets, puis qui voient dans le diagnostic de l'école que c'est un diagnostic quand même qui va à l'encontre de leurs valeurs et aussi de leur ego. Est-ce que je peux savoir comment vous gérez cette situation-là?
Oui, c'est une très bonne question. Justement, le terme TDAH, parfois, c'est, si je peux dire ça comme ça, c'est comme mal vu pour les parents ou pour certains parents. Alors que, déjà, l'école, il ne pose pas de diagnostic. Peut-être l'école, il a des remarques, il a des constatations qui communiquent aux parents, mais c'est aux parents d'aller chez un spécialiste qu'on appelle un neuropsychologue. Ni l'école, ni moi-même, on peut poser un diagnostic. Moi, je ne peux pas, avec les outils que j'ai, je ne peux pas poser un diagnostic. Moi, je peux aider ou bien accompagner un enfant qui a déjà été diagnostiqué ou bien pour d'autres qui ne sont pas diagnostiqués mais qui ont certaines difficultés. Mais comment il faut voir le TDAH, c'est pas une maladie, c'est pas une attaque à l'enfant, c'est un trouble neurodéveloppemental qui a besoin à ce moment-ci. Comment on peut le voir, c'est que mon enfant, il a besoin d'aide. J'aimerais bien que tous les parents, ils comprennent que lorsqu'on dit ça, ça veut dire que mon enfant, avec comment il s'exprime son cerveau, il a besoin d'aide. On ne peut pas aller chez un neuropsychologue, il va donner un diagnostic parce qu'il y a un cut-off. On travaille, il y a des questionnaires, il y a toute une batterie, il y a des outils qu'ils vont utiliser pour poser un diagnostic. Donc, s'il a été diagnostiqué, tout court, ça veut dire qu'il a besoin d'aide, ça veut dire que son cerveau il fonctionne d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'il est malade, qu'une façon maladroite, mais d'une façon qui le laisse hyperactif, d'une façon qui le laisse pas très attentionné. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je comprends aussi l'aspect qu'on ne veut pas la médication pour nos enfants à bas âge, c'est correct, et on peut être d'accord sur ce point, d'accord, mais il faut aller chercher de l'aide et d'autres solutions, parce que juste ne pas l'accepter et rester dans ce dilemme, c'est comme dire à l'enfant que tu fais ce comportement, c'est voulu ce que tu fais, alors que ce n'est pas voulu, alors que son cerveau il fonctionne de certaines façons qui donnent cette hyperactivité, et on doit aider notre enfant, et on doit aller chercher les outils, aller demander comme nous le neurofeedback, ça peut être une complémentarité, c'est-à-dire si le neuropsychologue il a posé un diagnostic, il a donné un traitement comportemental, ou même, je ne parle pas de la médication, ok, si on ne veut pas la médication, on suit le protocole et les recommandations du neuropsychologue et on peut aller chercher un accompagnement avec le neurofeedback qui vient aider dans ce parcours.
J'ai une question qui m'intrigue et peut-être elle intrigue les auditeurs et les auditrices. Quand l'école demande aux parents, par exemple, de faire un suivi avec un spécialiste que vous avez nommé tout à l'heure, c'est un neuropsychologue, pour un TDAH, on va prendre le TDAH parce que c'est ce qu'on entend le plus. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans cette discussion. Et les parents, ils décident d'opter pour le neurofeedback, d'accord, pour le suivi de leur enfant. Est-ce que quand l'enfant, par exemple, à l'école, le personnel pédagogique qui le suit, il est au courant qu'il fait un suivi avec un neurothérapeute, comme on appelle, oui, et non pas avec un neuropsychologue. Est-ce que ça va à l'encontre du règlement de l'école, ou bien l'école n'a pas le droit d'obliger les parents de suivre avec un spécialiste précis?
D'accord. Pour répondre à cette question, il faut clarifier quelque chose d'abord. L'école, elle peut nous envoyer des constatations, ce qu'elle observe, des observations, mais elle n'a pas un pouvoir thérapeutique ou un pouvoir d'imposer un traitement ou une façon de faire. Lorsqu'on reçoit le prof, quand même, il va observer, on prend au sérieux les observations. C'est-à-dire s'il y a quelque chose d'alarmant, on le prend, on va aller chez un spécialiste que lui seulement, il peut poser un diagnostic, comme je vous ai dit. Et à ce moment-ci, on peut discuter, il va nous proposer les options possibles. Souvent pour les enfants, les parents, il y a plusieurs parents qui décident qu'ils veulent pas de la médication pour leurs enfants. Donc à ce moment-ci, ils vont aller chercher d'autres alternatives, que ce soit comportemental, que ce soit du neurofeedback. Il y a d'autres techniques de neuromodulation. Donc c'est le parent avec le neuropsychologue ou le médecin traitant ou le spécialiste qui va suivre le cas. C'est eux qui vont discuter ensemble des options possibles pour cet enfant. Mais l'école, elle est là à faire un suivi, à voir la progression, à collaborer avec le parent et avec cette équipe. Mais il n'y a pas vraiment un pouvoir dessus.
Une dernière question pour vous. J'aimerais savoir, pour les frais de séance que les patients que vous recevez ici, est-ce que c'est assuré par la RAMQ ou bien est-ce qu'ils doivent avoir des assurances privées? Si c'est le cas, c'est quoi la fourchette des prix? Et puis, c'est quoi les diagnostics précis que vous priorisez ici dans votre clinique?
Oui, la fameuse question pour les assurances. Malheureusement, ce n'est pas couvert par la RAMQ. C'est quand même... les gens commencent de plus en plus de s'intéresser à cette littérature scientifique, à ces résultats. Donc, ce n'est pas encore couvert par la RAMQ, espérons un jour. Pour des assurances privées, oui, dans certains cas, ça peut être couvert par des assurances privées. Et pour la fourchette du prix, c'est... je vais expliquer quelque chose, parce que je peux vous donner une fourchette de prix par séance. Le neurofeedback, si on veut commencer à avoir des résultats visibles, ça prend entre 15 à 20 séances, et même plus. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, j'ai fait telle séance, mais je n'ai pas encore constaté de changement. » Oui, parce que lorsqu'on veut apprendre une habilité, avec la répétition, on va l'apprendre. C'est la même chose. Lorsqu'on veut demander au cerveau de s'entraîner à s'autoréguler, c'est avec la répétition qu'on va voir ce résultat. Et c'est pour ça qu'on propose des forfaits, des packages, comme pour 20 séances, par exemple. Le prix, ça va être entre 2 500 à 3 000 $. Et si on va aller par séance, ça peut être entre 120 à 150 $. Ça dépend le protocole choisi, ça dépend le type de protocole et ça dépend l'âge aussi. Et pour la population, ça cible des gens qui ont des difficultés telles que l'anxiété, le stress, des troubles de sommeil. Parfois, il y a des gens qui ont subi des commotions cérébrales et qui vivent toujours avec des séquelles post-traumatiques. Souvent, ils rapportent de la fatigue, aussi des troubles de sommeil comme une somnolence excessive ou bien de l'insomnie. Bon, ça veut dire qu'il y a certaines régions qui ont besoin de s'entraîner. On reçoit des gens comme ça aussi. Et pour les enfants, c'est des enfants qui ont le trouble de TDAH. Il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a des enfants qui ont des soucis de gestion des émotions aussi. Parfois, c'est la même chose pour les adolescents. Il y a des adolescents qui gèrent mal les émotions, donc le neurofeedback, il peut les aider à organiser et à optimiser leur fonctionnement cérébral. Et aussi, c'est pour ça que nous avons créé comme des programmes spécifiques. Ici, nous avons un programme qui s'appelle Neurofocus. C'est un programme, lorsque la personne est incluse dans ce programme, elle va focuser sur l'attention. on a un programme neuroréussite qui va, c'est-à-dire pour les gens qui vont prendre ce programme, c'est des gens qui veulent améliorer les difficultés d'apprentissage. On a aussi un programme neuroperformance pour les adultes, c'est pour des gens qui veulent tout simplement performer mieux, aider le cerveau à mieux s'autoréguler. Donc c'est pour ça qu'on a adapté chaque programme à une population spécifique.